France Culture.
Ce vendredi 17 janvier 2024, cela fera donc 50 ans que la loi Veil relative à l'interruption volontaire de la grossesse a été promulguée. L'anniversaire est largement célébré et s'il convient de s'en réjouir, il convient aussi sans doute de rappeler qu'il ne s'agit que d'une des multiples étapes d'un très long combat. Un combat qui depuis a dû et doit encore se poursuivre, même après la récente constitutionnalisation. Un combat qui avait démarré bien avant et s'était accéléré et intensifié au tout début des années 1970, ce qui précisément rendit possible l'adoption de la loi dite Veil. Une loi importante, mais provisoire et expérimentale, qu'il a fallu par la suite approfondir et consolider. Et c'est du combat pour l'avortement avant 1975 qu'il sera question dans la deuxième partie de l'émission, pour laquelle Léa Weinstein nous rejoindra pour parler des témoignages qu'elle a mis en récit. Et c'est du combat qu'il a fallu poursuivre après 1975, dont il sera surtout question pour commencer avec la juriste Stéphanie Hennette-Vaucher.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Stéphanie Hennette-Vaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de droit public à l'université Paris-Nanterre et vous avez co-dirigé un fort volume avec l'une de vos collègues, professeure de droit privé, je crois, Laurie Marguet.
Public aussi, pardon.
Mais il y a des juristes privatistes aussi dans ce volume, comme il y a également des anthropologues, des sociologues, je vais oublier certaines disciplines, mais c'est un...
Philosophie, démographie, études cinématographiques, sciences politiques, le panel est large.
Voilà, donc un livre de sciences sociales collectif, titré De haute lutte, la révolution de l'avortement, qui paraît aux éditions du CNRS en cette période de commémoration du 50e anniversaire, on l'a compris, de cette loi Veil. J'aimerais qu'on commence par là, par cette loi dont on fête les 50 ans, qu'on célèbre, qu'on fétichise peut-être aussi un peu. Non pas qu'elle soit pas importante, cette loi, elle l'est assurément. Mais peut-être le fait de s'en tenir à cette loi a tendance à masquer ce dont on parlera dans la deuxième partie avec Léa Weinstein, c'est-à-dire ce qui a rendu possible cette loi, et notamment les quelques années qui ont précédé le vote de la loi, mais aussi ce qu'il a fallu mener par la suite comme combat. Et pour le comprendre, peut-être faut-il d'un point de vue juridique rappeler ce qu'est cette loi qui, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas dépénalisé l'IVG à l'époque, qui était une loi provisoire, une loi expérimentale qu'il a fallu renouveler en 1979 et puis avant de l'inscrire autrement. Mais je vous laisse nous raconter ces péripéties de l'inscription jusqu'à la constitutionnalisation de cette loi dans le droit positif français, Stéphanie.
Oui, ces péripéties, elles sont très nombreuses parce que la loi Veil du 17 janvier 1975, c'est à la fois évidemment une étape très importante, c'est une révolution à bien des égards puisque, comme vous l'avez rappelé, elle vient en fait suspendre l'application de la loi pénale, l'ancien article 317 du Code pénal qui fondait les poursuites engagées contre les femmes qui avortent et celles et ceux qui les aidaient étaient tout simplement rendus inapplicables.
C'était des lois de 1920.
Alors c'était une loi de 1920 qui en réalité, la loi de 1920 faisait de l'avortement un délit. Auparavant c'était un crime depuis 1810, le code pénal napoléonien. Mais si la loi de 1920 en avait fait un délit, c'était pas du tout pour atténuer la sanction, mais bien au contraire pour l'accroître, puisque on se plaignait à cette époque de grandes fureurs natalistes, de ce que les jurés populaires, les cours d'assises, qui avaient à connaître du crime d'avortement, témoignaient d'une trop grande mansuétude à l'égard des femmes. Et donc c'est bien dans un mouvement assez paradoxal pour en fait aggraver les sanctions qu'on l'a transformé de crime en délit. Mais disons que effectivement, il y avait une pénalisation depuis 1810. Et donc, la loi Veil, bien sûr, elle est révolutionnaire puisqu'elle vient suspendre cette pénalisation et cette suspension deviendra pérenne à partir de 1979. Mais elle est à la fois révolutionnaire et un petit pas. Et c'est un peu ce paradoxe de la loi Veil. Petit pas parce que, en effet, si on reprend les discours de l'époque, y compris le discours du législateur, il est éminemment précautionneux. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout pas de consacrer un droit à l'avortement, hein, Simone Veil le dit en termes très clairs. Il s'agit également de refuser sa prise en charge par la sécurité sociale, alors même que la grande question des inégalités face à l'avortement à l'époque est véritablement une question de classe, hein, elle est très très profonde cette question. Et donc voilà, c'est aussi une loi de petits pas qui en réalité ne va être profondément transformé et qui va permettre qu'en réalité l'avortement devienne une pratique ancrée et accessible que au fil des 8, 10, 12 interventions législatives.
À la faveur de différents changements, la dépénalisation par exemple, c'est à la faveur de la réforme du code pénal, voilà, en 1992.
Alors exactement, la disparition de l'ancien article 317 du code pénal, elle est très tardive, hein, elle date de 1992, jusque-là voilà, on s'était accommodé de cette suspension provisoire. Il y aura beaucoup d'autres modifications, hein. Bien sûr, les modifications les plus connues, c'est l'allongement progressif du délai légal d'interruption volontaire de grossesse, 12 semaines en 2001 et 14 semaines en 2022. Mais en fait, il y en a bien d'autres. La loi Veil avait prévu, par exemple, que les femmes qui souhaitaient interrompre leur grossesse, femmes que leur situation de détresse, disait la loi,
On y reviendra, enfin, c'est très important, cette dramatisation.
Cette dramatisation était très importante, hein. C'était vraiment l'idée de dire que voilà, c'est la femme que son état place en situation de détresse qui doit pouvoir accéder à l'avortement, eh bien, elle devait se soumettre à un très lourd parcours médico-social avec toute une série d'autorités et d'acteurs qui, de ce fait, avaient toute latitude pour éventuellement la dissuader, et c'était d'ailleurs un des objectifs officiels assignés à ce dispositif, voire la stigmatiser, la culpabiliser. Et effectivement, ce terme de détresse, par exemple, lui, il va disparaître de la législation en 2014 avec la loi Vallaud-Belkacem sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Voilà, le discours législatif, c'est une chose. Les pratiques sociales et les représentations culturelles, c'en est une autre. Et on voit que cette idée que l'avortement concerne des femmes en détresse et que du coup, c'est quelque chose de nécessairement dramatique, c'est quelque chose qui va rester ancré, en fait, beaucoup plus profondément, y compris après la disparition de la condition de détresse de la législation.
On va y revenir à cette question de la détresse. Mais avant ça, pour compléter l'analyse de l'évolution juridique par un regard plus politique, c'est donc la droite giscardienne qui a voté cette loi en 1975 avec Simone Veil comme ministre de la Santé. En fait, c'est plutôt la gauche, par la suite, qui va mener ces avancées, consolider, approfondir ce droit à l'avortement, sauf pour les dernières années récentes où c'est plutôt Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs qui vont poursuivre le travail. Mais donc, comme pour la contraception en 1967 avec Neuwirth, c'est la droite qui initie, mais c'est la gauche qui prolonge, approfondit en quelque sorte.
Oui, alors c'est tout à fait vrai du point de vue des initiatives gouvernementales et législatives qui ont été prises. Sur les développements les plus récents, effectivement, ce qui est intéressant, si on regarde par exemple l'aboutissement de tout ce parcours législatif de 50 ans que vous avez évoqué, qui est la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, qui inscrit dans la Constitution la liberté garantie aux femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. C'est très intéressant de voir politiquement comment la chose s'est construite, puisque en effet... il y a eu des initiatives qui provenaient à peu près de plusieurs bords politiques, hein, qui pouvaient provenir de LFI, du Parti socialiste, du Parti présidentiel. Et dans les premiers votes qui sont intervenus lorsque le processus de constitutionnalisation a été enclenché, il y avait malgré tout... de manière intéressante, l'expression de résistance et de réticence assez forte, notamment au Sénat en janvier 2023, lorsque le Sénat a vraiment procédé à une réécriture du texte qui avait été adopté quelques mois plus tôt à l'Assemblée nationale, dans un sens très déflationniste, c'est-à-dire qu'il s'agissait plus du tout de parler d'un droit des femmes, il s'agissait plus du tout de parler de son effectivité, mais de revenir à un vocabulaire beaucoup plus neutre, qui était on va pas consacrer un droit des femmes, mais une compétence du législateur, et on va plus parler, on va plus utiliser le mot droit, mais on va utiliser le mot liberté.
C'est un peu curieux d'ailleurs comme formule cette constitutionnalisation, parce que c'est curieux pour la Constitution d'écrire que c'est la loi qui fait quelque chose. Enfin, ça existe déjà dans la Constitution, en fait, le fait d'écrire que la loi décide d'un certain nombre de domaines et le reste c'est le règlement, on le sait. Pourquoi il fallait un article supplémentaire pour le dire? Ou alors il fallait un article pour dire le droit à l'avortement est un droit.
Absolument, c'était la manœuvre, c'était le caractère très problématique de la manœuvre proposée par le Sénat au milieu du du processus de constitutionnalisation, puisque s'il s'agissait de dire que le législateur est compétent pour définir les modalités dans lesquelles s'exerce le recours à l'IVG, en fait, on le savait déjà.
Il n'y a pas besoin de réviser la Constitution pour ça.
Depuis la loi Veil, et à vrai dire, on le savait même depuis le Code pénal de 1810, puisque précisément, c'est toujours le législateur qui est intervenu pour criminaliser, suspendre la pénalisation, dépénaliser, etc. Donc c'était effectivement une opération à somme
symbolique,
nulle,
oui.
Qui a un tout petit peu été corrigée par la suite, lorsque le texte de compromis entre l'Assemblée nationale et le Sénat, proposé par l'exécutif, est resté indexé sur la formule du Sénat. Donc voilà, cette version un peu déflationniste, c'est pas un droit des femmes, c'est une compétence du législateur, mais a néanmoins inséré le terme de garantie. C'est-à-dire que, malgré tout, on dit pas au législateur seulement « tu dois intervenir », mais on esquisse la direction dans laquelle il doit le faire. Il ne peut intervenir que pour garantir la liberté des femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Mais juste sur cette constitutionnalisation, ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors même que dans le processus, il y a quand même eu une certaine pertinence de la distinction gauche-droite à laquelle vous faisiez référence. En fait, sur le vote final, ce qui est très très intéressant, c'est que on est à plus de 780 voix en faveur de la constitutionnalisation. Donc la majorité qui était nécessaire des 3/5 des deux assemblées réunies était absolument pulvérisée. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, me semble-t-il, à noter.
Alors justement, cette constitutionnalisation, vous y consacrez un chapitre du livre, c'est pour vous l'occasion de réfléchir plus largement au droit constitutionnel, en fait, parce que ça fait test, en quelque sorte, le fait de constitutionnaliser ou non l'avortement.
Oui, ce qui m'a frappé lorsque les débats sur la constitutionnalisation se sont ouverts, c'est que quand on regarde à l'étranger, en fait, on se rend compte que les constitutions dans le monde sont silencieuses et ont toujours été silencieuses sur la question de l'avortement. Et plus généralement, elles ont été très silencieuses sur la question de la reproduction. Et on peut considérer que c'est un peu paradoxal, puisque si la Constitution est la traduction en acte du contrat social, et étant donné que la reproduction est absolument nécessaire pour la perpétuation des communautés politiques, on peut s'étonner que ça soit pas un sujet central de ce type de texte. Et de ce fait, il me semble que c'est très intéressant de réfléchir, non pas à un effet magique ou mécanique de la loi constitutionnelle qui a été adoptée en France, mais de malgré tout, la mesure dans laquelle ouvrir les constitutions aux questions reproductives et en particulier au droit à l'avortement est susceptible de renouveler l'idée qu'on se fait de ce que ça signifie d'avoir une constitution. Et il me semble que potentiellement ça peut être un point d'ancrage pour toute une série de mobilisations, d'actions pour peser sur une lecture de la Constitution qui désormais politise ce qui a très longtemps, et en fait sous l'empire du paradigme constitutionnaliste moderne depuis la fin du XVIIIe siècle, était tout ce qui est resté invisible dans le droit politique moderne et qui a en fait à voir avec la question de la dépendance. C'est que en fait la philosophie politique du XVIIIe siècle, elle est articulée autour de cette figure de l'individu autonome, rationnel, indépendant, alors même qu'en réalité, nous savons tous que la grande caractéristique de la condition humaine, c'est la dépendance. Et donc, il y a comme ça une sorte de piège du constitutionnalisme moderne qui ne rend visible que justement tout ce qui est sphère politique, sphère publique. Et donc, il me semble que cette question de l'irruption de l'avortement dans le texte constitutionnel permet de souligner ça et donc de poser la question d'une possible nouvelle épistémologie constitutionnelle qui donc politise les questions de reproduction et surtout le fait en des termes égalitaire, puisque en réalité on avait déjà eu au début du XXe siècle en Allemagne, en Italie, en France, dans d'autres pays encore, des dispositions constitutionnelles qui valorisent la maternité. En France, c'est la nation reconnaît à la mère et aux vieux travailleurs la reconnaissance, le droit à la sécurité matérielle, le repos, les loisirs. Donc il y a une sorte de valorisation de la maternité, mais qui procède un peu par assignation et qui n'est pas du tout engagée dans une réflexion de la dette, d'une certaine manière, contractée par les communautés politiques vis-à-vis de celles qui font le travail reproductif. Et de ce fait, il me semble que l'avortement, c'est à la fois reconnaître cette dette collective vis-à-vis du travail de la reproduction, mais c'est le faire en des termes qui assurent que personne ne sera contraint dans cette responsabilité-là.
D'ailleurs, cette question du lien entre avortement, travail reproductif, reconnaissance politique de ces questions à travers des droits, elle est réabordée par l'une de vos collègues, contributrice de l'ouvrage, Lisa Carayon.
Absolument.
Dans un texte qui se pose la question du parallèle qu'on peut faire ou pas entre l'IVG et les aides médicales à la procréation.
Oui, et ce texte de Lisa Carayon qui porte spécifiquement sur un des gros angles morts aujourd'hui de la réflexion, y compris juridique, sur le régime juridique de l'avortement, qui est quelle réparation en cas d'échec d'interruption volontaire de grossesse, y compris le cas échéant lorsqu'il y a une faute médicale qui est commise, permet de montrer que juridiquement, l'avortement n'est pas du tout un acte médical comme un autre, parce que précisément, eh bien, dans ce cas-là, les règles de la responsabilité médicale...
Il n'y a pas d'échec.
Voilà, il n'y a pas d'échec, en fait. Enfin, il n'y a pas de préjudice et on ne va pas
juridiquement, y a
l'indemniser.
Pas
et ça fait écho à d'autres contributions du livre. Je pense par exemple à celle de Marie Ménil, qui elle aussi est juriste et qui travaille sur tous les mécanismes de prise en charge financière de l'avortement. Non seulement la couverture par la sécurité sociale, mais aussi la question en droit social, en droit du travail, des congés qui sont
des
associés, des absences au travail, etc. Et là aussi, on voit que l'avortement n'est pas un acte médical comme un autre, ce qui est quelque chose qu'on va retrouver de manière très différente dans l'ouvrage aussi, avec d'autres contributions encore. D'abord, celles qui ont à voir avec la question des délais, où on voit qu'il y a une artificialité et une complexité des règles qui, en fait, se justifient essentiellement par la singularité de l'acte, qui là encore n'est pas vraiment traité comme un acte médical comme un autre, ou par la contribution passionnante elle aussi du gynécologue obstétricien Philippe Fauché, qui entre vraiment dans le détail des différentes techniques d'avortement en lien avec les différents délais, non seulement légaux, mais aussi les délais de bonnes pratiques médicales qui correspondent, et montre bien qu'on a affaire ici à un cadre légal qui n'est pas toujours respecté, puisque la loi va dire, par exemple, depuis la loi Gaillot de mars 2022, que l'IVG se pratique jusqu'à 14 semaines, 16 semaines d'aménorrhée, et en fait, on rencontre des établissements et ou des médecins qui... décident que, ils ne pratiqueront pas l'avortement sur tel délai, ou alors qui choisiront des techniques médicales qui ne sont pas forcément celles recommandées par la Haute Autorité de Santé, par exemple. Et tout ça, en fait, ça aboutit à tous ces petits détails dans lesquels on a voulu aller dans l'ouvrage, c'est-à-dire pour sortir du discours de célébration de la constitutionnalisation, qui, bien sûr, a ses mérites, mais qui gomme un peu les aspérités de la réalité sociale et juridique de l'avortement en France aujourd'hui. Mais on a voulu aller dans tous ces détails pour montrer qu'en fait, il y avait beaucoup d'angles morts, y compris de la conversation publique sur l'avortement, y compris à un moment où on en a beaucoup parlé à cause ou grâce à cet épisode de la constitutionnalisation.
Mais au fond, ce flou, cette zone sur la question des délais, la différence entre l'IVG et l'IMG, qui est traitée par Justine Chaput, ça renvoie peut-être aussi à un autre article, qui est un article d'une anthropologue, Anne-Sophie Giroux, sur le statut incertain de ce qu'elle appelle l'être anténatal. Et au fond, article qui se félicite du caractère incertain de ce statut.
Mmh. Oui, c'est aussi un article absolument passionnant, où elle travaille sur... un matériau très riche qui va des embryons in vitro au fœtus mort-né et à ce qu'elle appelle cet état liminal entre la personne et la chose. Et c'est effectivement un argument très très fort qu'elle met en avant, qui consiste à dire qu'en réalité, l'incertitude, la part de variation dans la qualification et le traitement de ces états entre embryon, fœtus, personne, etc., est en fait une des conditions de possibilité du pluralisme de la société. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un besoin, c'est-à-dire une solution rigide, comme la privilégierait un regard juridique de courte vue, qui, vous savez, les juristes classent le monde en deux catégories, il y a les personnes et les choses. Et il n'y a pas vraiment d'état intermédiaire. Eh bien, précisément, je crois que son regard d'anthropologue montre bien que, en réalité, cette binarité n'est pas opératoire et elle ne permet pas à la société de fonctionner à cause de toute l'épaisseur de la vie humaine. Et donc, c'est effectivement un argument très fort qu'elle met en avant sur l'importance de cet état incertain pour le pluralisme social.
Alors, on sait que c'est cet état, c'est les embryons, c'est les fœtus qui sont beaucoup trompe utilisée par ceux qui luttent contre l'avortement, qui font aussi l'objet de contributions dans le livre. Moi, j'ai appris une chose en particulier en lisant un chapitre qui concerne ces questions, c'est que, en fait, vous notez que l'argument principal contre l'avortement, pendant longtemps, n'a pas été celui classique dans la droite catholique de la protection de la vie, mais plutôt un argument racial, en fait.
Oui, il y a un argument racial, il y a un argument national très fort, les deux étant volontiers liés, parce que, effectivement, pendant très longtemps, en réalité, la principale justification de la criminalisation de l'avortement, c'est la crainte de la dépopulation, hein, notamment de manière très forte à partir de la guerre de 1870. C'est un argument qui va vraiment monter en puissance. Et donc, il y a un enjeu...
On continue de l'entendre, hein, dans l'actualité, il y a des sortes de panique morale, là, avec les chiffres de l'INED,
oui,
qui viennent de tomber, ou de l'INSEE, pardon, qui viennent de tomber sur le à propos de la natalité en
absolument,
France
et, effectivement,
et en Europe.
Il y a énormément d'inquiétude, hein, d'ailleurs chez les féministes, quand ce type de chiffres sont remis en avant, parce que on sait bien que historiquement ils ont été volontiers instrumentalisés pour justement remettre en cause les libertés reproductives des femmes. Mais effectivement, historiquement, cet argument national racial a été très prégnant, et de fait, la défense de la vie, c'est un argument finalement relativement récent, et on le voit bien. Alors dans les contributions de Céline Béraud et Séverine Mathieu, qui travaillent spécifiquement sur les mobilisations catholiques, mais aussi dans le texte de Florence Rochefort, qui propose une généalogie de la loi Neyert, qui en 1993 va revenir au droit pénal, mais bien sûr plus du tout pour interdire l'avortement, mais au contraire pour créer un délit d'entrave pour les commandos anti-IVG. Si cette loi date de 1993, c'est bien que précisément c'est dans les années précédentes que se sont constituées les associations qui ont privilégié ce type de mode d'action. Mais c'est vraiment le moment où la défense de l'embryon, la défense de la vie va prendre le dessus dans ces mobilisations anti-IVG.
Cette loi Neyertz, du nom de la secrétaire d'État à l'époque socialiste, va être renforcée d'ailleurs par la suite. Il y aura besoin de la renforcer.
Il y aura besoin de la renforcer pour faire face à la désinformation en ligne. Et effectivement, ça sera l'extension du délit d'entrave créé en 1993 par la loi Neyertz à la désinformation en ligne, qui va être opérée par le législateur en 2017.
Je voudrais qu'on revienne, Stéphanie Nedvaucher, toujours à propos de ce gros volume de Haute Lutte, la révolution de l'avortement, que vous avez co-dirigé avec Laurie Marguet. J'aimerais qu'on revienne sur ce mot de détresse qui est dans la loi Veil, qui est au fond la justification morale de cette loi, peut-être la manière de faire passer la pilule, si j'ose dire, pour un certain nombre de parlementaires à l'époque. Ça cadre les choses, c'est-à-dire que on aurait le droit, la liberté d'avorter parce qu'on est dans une situation de détresse. En fait, ce que constatent les sociologues qui ont travaillé sur le sujet, c'est que c'est pas toujours le cas. Et là, il y a aussi un article intéressant de Laurine Tizi sur cette question.
Alors, sur cette question de détresse, c'est vraiment très intéressant parce que la loi Veil dit... la femme que son état de grossesse place en situation de détresse peut accéder à l'avortement. En réalité, c'est pas tant sa grossesse qui plaçait la femme en situation de détresse en 1975 que la criminalisation, c'est-à-dire la loi elle-même. C'est la loi qui causait la détresse, qui causait toutes les situations dramatiques dans lesquelles les femmes pouvaient se trouver à se confier à des soins vraiment dangereux, à devoir rassembler des sommes exorbitantes, etc. Donc la détresse, en réalité, elle était surtout causée par la loi. Elle figure dans la loi Veil, mais de manière très intéressante, en fait, juridiquement, cette condition, elle a très peu produit d'effet. Parce que, en fait, dès 1981, il y a des interprétations données par les juges de la loi Veil qui précisent très clairement qu'en réalité, la femme est la seule juge de l'état de détresse dans lequel elle se trouverait du fait de sa grossesse. Et donc, c'est important parce que on sait bien que dans un certain nombre, enfin dans de très nombreux pays, et aujourd'hui il y a une nouvelle vague de ce type de législation aux États-Unis, la loi va exiger l'accord parental ou l'accord de l'époux, etc. Ça n'a jamais été, ça n'a pour ainsi dire jamais été le cas, hein, dès 81. C'est très clair en France, la condition de détresse, elle est neutralisée d'une certaine manière par cette interprétation très forte qu'en donnent les juges. Mais pour en venir au texte de Laurine Tizi, ce qu'elle montre et qui, je crois, est absolument capital et tout à fait passionnant, c'est que, en effet, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'avant 75, la détresse, elle est vraiment causée par la criminalisation. Elle montre, sur un terrain contemporain, que, en réalité, cet argument de la détresse, c'est un argument qui psychologise la décision des femmes, alors même qu'en sociologue, elle liste un certain nombre de critères sur la base d'une enquête de terrain qui montre qu'en réalité, ce sont les conditions sociales qui sont les déterminants essentiels de la manière dont les femmes vivent la décision d'interruption de grossesse qu'elles peuvent prendre. Alors, ces conditions sociales, quelles sont-elles? Ce sont d'abord peut-être des conditions éducatives, socio-économiques, d'accès à l'information, c'est des conditions de relations, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont accompagnées ou délaissées par leur conjoint, leur partenaire sexuel au moment de la décision d'interruption de grossesse, et c'est aussi la qualité de la prise en charge médicale. Parce que on le sait, hein, et on le savait déjà par exemple avec l'ouvrage important qu'avait fait paraître Dominique Mémy, Faire vivre ou laisser mourir au début des années 2000, on le sait, sur la période y compris contemporaine, on continue de les femmes continuent de rencontrer des prises en charge médicales qui peuvent perpétuer la stigmatisation, voire même la culpabilisation. Donc tout ça, ce sont ces facteurs-là, en réalité, explique Laurine Tizi, qui sont absolument déterminants dans la manière dont les femmes vivent l'interruption de grossesse.
Au fond, quand on regarde rétrospectivement la manière dont les choses ont évolué depuis le vote de la loi Veil, on se dit que peu à peu, la possibilité pour les femmes de prendre seule la décision de recourir ou non à l'avortement a été rendue de plus en plus possible sans qu'elle le soit totalement encore, puisque si c'était le cas, ce serait véritablement un droit inscrit dans la Constitution, ce que ça n'est pas tout à fait. C'est une liberté et la distinction est assez importante. Au fond, on voit que ce qui gêne tous les acteurs sociaux, y compris ceux qui veulent à tout prix garder des entretiens, que ce soit des médecins, mais aussi des conseillères du planning familial pendant longtemps, c'est empêcher une femme seule de prendre cette décision pour elle-même.
Oui, empêcher ou en tout cas contrôler. C'est vrai que c'est une caractéristique de l'histoire longue du régime juridique de l'avortement. Bon, malgré tout, ça fait maintenant depuis 2001 que cet entretien n'est plus obligatoire. Sauf pour les mineurs. Depuis 2022, malgré tout, la législation qui a étendu à 14 semaines le délai d'IVG, eh bien, c'est une loi qui s'intitule « Loi visant à renforcer le droit à l'avortement ». Je crois que malgré tout, on a un régime juridique, alors bien sûr, qui connaît beaucoup de limites, et on en a listé sur la responsabilité, sur la prise en charge, sur le droit de la responsabilité médicale, sur la prise en charge.
Puis après, il y a les limites pratiques d'accessibilité, il y a la manière dont fonctionnent les lieux auxquels on s'adresse,
et ça. Les inégalités territoriales.
Elles sont considérables.
Donc c'est pas du tout pour gommer les aspérités, encore une fois, hein. Je dirais, un des objectifs de l'ouvrage, c'est au contraire de les mettre en lumière. Mais, sur la question de savoir si on a affaire à un droit ou une liberté, malgré tout, il me semble que, la distinction, et Laurie Marguet en l'occurrence s'intéresse à cette distinction juriste, étrangement, pour les juristes, la distinction elle n'est pas si importante que ça. Je pense que chacun peut intuitivement en fait penser à des choses qui sont appelées des libertés, qui sont plus robustes que des choses qui sont appelées des droits. Par exemple, je pense que tout le monde a la compréhension intuitive que la liberté d'expression en France est mieux protégée que le droit au logement ou le droit à l'hébergement d'urgence. Donc, en fait, en réalité...
Dit comme ça, c'est assez clair.
Voilà. Sur le plan juridique, en réalité, la différence n'est pas absolument déterminante, mais ce qui est très intéressant, c'est que précisément, au moment... En fait, cette question, elle n'est pas cruciale du point de vue de 50 ans d'évolution du droit de l'avortement. Elle est revenue en pleine lumière au moment de la constitutionnalisation, et je trouve que c'est très intéressant qu'au moment même où un consensus quand même très large, on le disait tout à l'heure, se faisait autour de l'idée que nous voulions absolument conjurer ce qui venait de se passer aux États-Unis et que donc nous allions inscrire l'avortement dans la Constitution, eh bien néanmoins, dans ce moment de consensus politique, un certain nombre d'acteurs ont eu le sentiment que parler de droit, ce serait quand même aller trop loin. Ce serait quand même faire le geste de trop. Et donc, on fait toute une série de contorsions pour que, en effet, ne soit inscrite que la liberté garantie à la femme de recourir à l'IVG. Et c'est très amusant parce que cette constitutionnalisation, elle date de mars 2024, elle n'a pas encore un an. Et quand on écoute les ministres, les membres du gouvernement se féliciter d'avoir eu partie liée à cette opération, ils parlent sans cesse, il et elle parlent sans cesse de droits fondamentaux, de droits des femmes, etc. Alors même que précisément, beaucoup d'efforts ont été faits pour que ça soit pas appelé un droit.
Alors, il y a un autre chapitre dont on n'a pas parlé dans ce livre de Haute Lutte, la révolution de l'avortement, Stéphanie Hennette-Vaucher, c'est le chapitre de Geneviève Cellier sur la manière dont l'avortement est représenté dans le cinéma français depuis les années 1930. Est-ce que là aussi ça vient nourrir au fond les réflexions autrement que fait Laurine Tizi sur la question de la situation dans laquelle se trouvent les femmes au moment de prendre la décision ou pas de recourir à l'IVG?
Exactement, on était très 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 heureuse d'avoir cette contribution de Geneviève Seyé parce que effectivement cette idée que l'avortement est toujours un drame dont je répète qu'elle est encore très ancrée et Simone Veil n'est pas la seule à avoir utilisé cette expression en 1974 dans son discours parlementaire. Emmanuel Macron lui-même, en 2022, avant même de lancer les grandes opérations de constitutionnalisation, l'avait reprise à son compte. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui demeure très ancré. Et il nous avait semblé que passer par les arts et les représentations, en l'occurrence cinématographiques, serait une piste intéressante. Et Geneviève Seyé livre un chapitre absolument passionnant dans lequel elle dresse une anatomie presque clinique du cinéma français et des représentations de l'avortement. Et elle montre qu'en réalité, c'est vraiment sur la période extrêmement récente que l'avortement est représenté autrement justement que comme un drame ou une faute. Et qu'en l'occurrence, ça correspond aussi à la prise en charge de cette question par des réalisatrices femmes. Donc c'est effectivement un chapitre très intéressant.
Les représentations du cinéma et de la littérature, on les retrouve aussi dans les récits, que ce soit les récits mis en forme par Léa Weinstein, qui nous rejoint dans la deuxième partie, sous forme d'un livre, Il suffit d'écouter les femmes, ou dans le documentaire également, on y trouve des références à des films et à un livre en particulier, celui d'Annie Ernaux. Léa Weinstein nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission, c'est après un extrait du nouvel album d'Angel Olsen, The Takeover.
Thought it ever would, how I always thought you'd end up mine. Now you had guide, I always thought you'd be mine. You seem to have a good time. I always thought you'd be mine. Until I find a new time, I always thought you'd be mine. I'd like to spend the day with you.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Politique des territoires délaissés, c'est le titre du nouveau numéro de la revue Mouvement et ça fera l'objet de la rubrique Actualité pour laquelle Renaud Epstein nous rejoindra. Mais on continue de parler d'avortement à la suite dans les idées cette semaine. On en a parlé à propos du livre collectif co-dirigé par Stéphanie Hennette-Vaucher et Laurie Marguet. On continue d'en parler avec vous, Léa Manstein. Vous avez mis en récit des témoignages qui sont recueillis dans un livre qui paraît chez Flammarion en coédition avec Lina. Et en coédition avec Lina parce que c'est l'une des pierres d'un édifice très vaste, initié par l'Institut National de l'Audiovisuel. Une grande enquête, un appel à témoignages lancé auprès de femmes qui ont avorté à une époque où ce n'était pas encore autorisé par la loi, c'est-à-dire avant 1975. L'idée était de retrouver, ça s'est fait ces dernières années, des personnes qui étaient passées par là, il était temps de le faire, et ça s'est fait, ça prend la forme de témoignages, de 79 témoignages, dont on peut retrouver l'intégralité en vidéo sur le site de l'INA depuis quelques jours. Ça a pris la forme aussi d'un film documentaire qui a été diffusé mardi soir sur France 5. Ça prend la forme d'une série de podcasts. Je crois que ça prendra la forme d'une bande dessinée bientôt. Mais en attendant, ça prend aussi la forme de ce livre. Comment vous avez procédé? Vous avez regardé, visionné ces 79 entretiens au long cours. C'est des entretiens qui durent une heure et demie, deux heures avec chaque personne. Et vous avez composé au fond, un livre qui témoigne, chapitré, de ce moment, de cette histoire. J'aimerais vous demander d'abord comment vous avez fait avec face à une telle montagne d'informations.
Oui, c'était une montagne d'informations et puis une montagne de vécu aussi qu'il fallait pouvoir recevoir.
Et des personnages.
Et de personnages, oui, tout à fait. Et de récits, sur l'avortement, justement, on en parlait, une multiplicité comme ça d'acteurs, d'actrices, de vécus différents. Donc effectivement, moi je suis arrivée après l'appel à témoins qui a été largement entendu, ce qui est déjà une première information puisque Lina, donc c'est Isabelle Foucrier à Lina qui a lancé cette idée et elle ne savait pas comment ça allait être reçu.
Je crois que près de 400 personnes ont témoigné.
Et en fait, un répondeur avait été mis en place et le téléphone n'arrêtait pas de sonner, toutes générations confondues, des femmes mais aussi des hommes. On y reviendra
leurs
peut-être.
Leurs enfants ou leurs petits-enfants parfois.
Leurs enfants et leurs petits-enfants, tout à fait. Et puis, il y a eu ensuite un comité scientifique qui a été mis en place pour pouvoir permettre un premier choix de témoignages selon des critères géographiques, sociologiques et aussi liés à l'histoire de l'avortement lui-même, tel qu'il a été vécu, puisqu'il n'y a pas un scénario d'avortement clandestin comme on peut parfois l'imaginer, mais il y en a de multiples, donc il fallait pouvoir aussi représenter ça. Et ensuite, de là ont été choisies donc ces 79 personnes, témoignages auxquels j'ai pu avoir accès. Et on a travaillé chacune, donc Sonia Gonzalez qui a fait ce film documentaire, Julie Ozou qui travaillait sur les podcasts, et moi, sur le livre, on a travaillé chacune un peu de notre côté, en fait, pour pouvoir...
Avec le même matériau.
Voilà, avec ce matériau, et pour essayer d'en donner des émanations différentes, et je crois que c'est le cas, finalement.
Qu'est-ce que vous avez découvert dans ces histoires qui semblent à la fois très proches et très lointaines?
Oui, c'est très étrange. J'espère que le livre parvient à restituer ça, parce que c'est quelque chose qui est assez frappant, c'est-à-dire que il y a à la fois des lignes de force communes vraiment fortes, notamment cette chronologie, en fait. C'est d'abord la chronologie qui est commune, c'est-à-dire le jour où on découvre cette grossesse qu'on n'attendait pas ou qu'on ne désirait pas. La façon dont ensuite on prend cette décision, souvent dans une très très grande détermination, qui revient aussi, c'est-à-dire que elles sont prêtes à mourir, en tout cas, voilà, elles savent pas comment faire, bien souvent, par où commencer, comment s'y prendre, vers qui se tourner, mais elles savent qu'elles y arriveront. Et puis ensuite, là, ça se déconstruit en plusieurs chemins possibles, et il y a aussi une chronologie dans les méthodes d'avortement. En fait, dans la majorité des témoignages, donc on est avant 75, jusqu'en 72 à peu près, le scénario...
Là, il y a une vraie rupture à ce moment-là.
Voilà, il y a une vraie rupture.
Avec l'introduction
72,
de...
c'est vraiment la faiseuse d'ange, comme on l'appelait, c'est-à-dire la pose d'une sonde, l'attente des saignements, puis se rendre à l'hôpital sous prétexte d'une fausse couche, qui, elle, hypocritement, est acceptée, et donc les patientes doivent être reçues à ce moment-là. Le médecin peut pas savoir s'il s'agit d'une fausse couche ou du résultat d'un avortement. Et puis, ensuite, voilà, parfois, donc le curetage, et puis parfois les hémorragies, les infections, quand
parfois, ça tourne l'arrivée mal. À l'hôpital dans un état de septicémie et parfois la mort. Vous rappelez à la fin du livre que, parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée, qu'aujourd'hui encore, selon les chiffres, c'est 40 000 femmes qui meurent chaque année.
Oui, 39 000, je crois, voilà, qui meurent chaque année selon l'OMS, oui, encore aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une des choses que moi, personnellement, je retiens quand même de ces témoignages qui nous donnent accès, et c'est précieux, au vécu de la clandestinité, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, en fait, quand l'avortement n'est pas légal, quand la femme se retrouve dans la clandestinité, à quoi elle fait face, à quoi elle est soumise, et qu'est-ce qui peut se passer. Et donc, ultimement, mais ça revient quand même, et ça, je pense que ce sont des chiffres, en fait, qu'on n'aura jamais. Combien de femmes sont mortes avant la loi Veil?
Parce que les morts étaient souvent déguisées en d'autres raisons, pour la famille, pour les proches.
On ne disait pas
la véritable raison du décès à l'hôpital, par exemple. Mais en même temps, il y a d'autres expériences. On trouve aussi des femmes qui s'auto-avortent, qui s'auto-avortent souvent, 7 fois, 8 fois dans leur vie. Ce sont des cas qui existent également. Il n'y a pas que la surprise, la première fois, de le truc qui vous tombe dessus. Il y a aussi une forme de pratique féminine qui est transmise de génération en génération, parfois. Il y a cette histoire incroyable d'une femme aujourd'hui qui raconte comment sa mère lui a demandé de l'avorter.
La fille qui avorte sa mère, et effectivement cette transmission d'un savoir qui se passe d'ailleurs souvent sans mots, ce sont des gestes comme ça qui sont transmis. Et puis il y a aussi ça dans la clandestinité, pour sortir justement des scénarios dramatiques, il y a aussi cette solidarité qu'on n'appelait pas encore sororité, mais que certaines femmes déjà appellent comme ça dans leurs témoignages. Elle témoigne de ça aussi, de ce système de bricolage, du fait qu'il fallait trouver une solution et que les femmes, parfois même, voilà, encore une fois, sans se le dire, sans qu'il y ait de dette qui soit formulée, aucunement, cèdent.
Stéphanie Hennette Vaucher, comment vous avez reçu cette masse de propos, de témoignages, de récits, alors que... le sujet, vous le connaissez, vous l'avez travaillé, mais autrement.
Ouais, je crois que c'est vraiment des récits qui sont très marquants. C'est vraiment des récits qui sont très marquants. On voit, ils sont d'une crudité vraiment bouleversante. Mais par rapport à ce qui était évoqué juste à l'instant, je crois qu'il y a... Enfin, c'est très intéressant de voir ce qui se passe vers la fin, de la période antérieure à 1975, et qui est aussi une manière dont les femmes et les mouvements féministes vont s'emparer aussi de ça pour jouer une forme de transgression émancipatrice. Alors, c'est les choses, bien sûr, sur lesquelles a travaillé beaucoup Bibia Pavard autour du MLAC, et justement tout ce qui est permis par la méthode Carman et donc la création vraiment de savoir féministe et de quelque chose vraiment de l'ordre de l'émancipation dans la transgression. Et c'est quelque chose qui fait écho à un autre chapitre dans qui renvoie à la pratique contemporaine, un chapitre de notre ouvrage, celui écrit par Aude Arlet et Sophia Varghez, qui sont sociologues et qui ont fait un terrain d'observation auprès de femmes françaises ou qui quittent la France pour aller obtenir un avortement en Espagne parce qu'elles sont en dépassement de délai. Et c'est vraiment très très intéressant, c'est-à-dire que je crois qu'il y a
ça
vraiment
fait écho
des parallèles.
À des situations.
Voilà. Il y a vraiment des parallèles sur cette manière dont la transgression, parce que franchir une frontière, etc. C'est voilà, on a l'impression d'être criminel, mais il y a quelque chose d'émancipateur aussi qui se joue.
Et puis cette alliance des compétences ou cette période, bon, c'est 1972, 73, 74 où on voit le planning familial au fond faire un tri social entre les femmes qui ont de l'argent et qui vont avorter aux Pays-Bas ou à Londres, et puis celles qui n'ont pas les moyens et qui sont adressés par le planning à des médecins qui pratiquent dans la clandestinité ces avortements, mais qui ne ressemblent pas aux médecins d'avant. Ces médecins qui sont rendus possibles par cette méthode Karman.
Oui, cette méthode Karman qui arrive, je crois, en 1972 et qui va permettre de réduire énormément les risques médicaux liés à l'avortement, qui va aussi réduire énormément, et c'est quelque chose qui revient de manière bouleversante dans les témoignages aussi, qui réduit la douleur. Parce que avorter, ça fait mal. Et qu'elles témoignent toutes de ce souvenir d'une douleur physique extrêmement intense. La méthode Karman fait disparaître ça. Et donc, ça permet aussi ces regroupements, donc le MLAC, le fait de vivre ça non plus comme un acte, comme dans l'événement d'Annie Ernaux, la faiseuse d'ange, cette solitude existentielle dont elle parle, de se retrouver dans cet impasse face à cette femme qu'elle connaît pas, qu'elle reverra jamais, etc. Là, avec la méthode Karman, il y a du collectif qui va entrer aussi en scène. Certaines femmes en témoignent, le sentiment d'être entourées, de plus être seules, de moins souffrir. Et donc, par rapport aussi à cette question du drame et de la détresse que vous évoquiez tout à l'heure, c'est intéressant de voir dans les témoignages comment ça évolue aussi dans la période. Parce que ce que permet la méthode Karman à travers tout ce qu'on vient de dire, c'est justement que l'avortement soit moins un traumatisme, soit moins un drame, et que donc la liberté soit pleine et entière de le vivre comme la femme le vit, en fait, c'est-à-dire sans jugement de valeur et dans une multiplicité de vécus qui est complètement possible. Avant la méthode Karman, c'est quand même plus compliqué. Donc Simone Veil, le discours de Simone Veil avec cette idée que c'est toujours un drame, qu'il faut que ce soit un traumatisme, etc. Je pense qu'il faut aussi le réhistoriciser et se dire que voilà, à partir de 72, il est possible de plus être traumatisé. Et on a certains témoignages de femmes qui disent moi j'ai eu des enfants après, j'ai été bien plus traumatisée par par mes enfants que par mes avortements, mais parce qu'elles ont bénéficié de cette méthode Karman.
Donc ces années qui précèdent le vote de la loi Veil rendent possible ce vote de la loi Veil, mais il y a une autre chose qui rend sans doute possible ce vote, et on n'en a pas parlé dans cette émission, donc je voulais le citer, c'est le procès de Bobigny, et c'est en particulier la plaidoirie de Gisèle Halimi qui sera très importante pour déclencher aussi des mobilisations professionnelles et des mobilisations sociales et féministes qui ont fait aboutir les choses quelques années plus tard. Merci beaucoup Léa Weinstein, il suffit d'écouter les femmes, c'est le titre de ces témoignages que vous avez mis en récit, l'avortement clandestin par celles qui l'ont vécu 1950-1975 et de haute lutte, la révolution de l'avortement, c'est le titre du volume dirigé par Stéphanie Hennette Vaucher et Laurie Marguet.
France Culture, la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
Alors des territoires délaissés en matière d'IVG, il y en a, on en a dit un mot, il y a des grandes inégalités territoriales. Mais ça dépasse cette question de l'accès à l'avortement, c'est l'accès tout simplement par exemple aux services publics qui est très inégal selon le territoire. Le nouveau numéro de la revue Mouvement, avec un S, dont vous êtes l'un des responsables de ce dossier, Renaud Epstein, sociologue, professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, vous l'avez co-dirigé avec trois collègues. Vous avez voulu vous intéresser à cette question des territoires délaissés en proposant cette expression d'ailleurs de territoires délaissés pour remplacer ces manières de parler qu'on entend de plus en plus Je ne sais même pas s'il faut les prononcer, mais elles ont beaucoup de succès.
Des expressions qui divisent le territoire de façon binaire, on va
voilà,
dire.
Mais on pourrait repartir d'autre chose. Dans son discours de politique générale, pour faire de l'actualité, le Premier ministre François Bayrou a cité un livre seulement, un livre « Paris et le désert français », écrit par un propagandiste de Vichy, enfin écrit quelques années plus tard, par cet auteur, mais qui est un livre qui a marqué durablement les esprits dans ce pays en matière d'aménagement du territoire. Pas que les esprits, les politiques publiques aussi.
Tout à fait. Un ouvrage qui a été, donc, qui date de 1947 et qui a été republié trois fois. C'était assez étonnant, hein, d'entendre cette figure réémerger. Et en même temps, c'est assez révélateur de l'époque que l'on vit, puisque ce qui se joue derrière cette expression, je crois qui est assez commune, même si personne aujourd'hui n'a pu lire le livre, c'est, bah, finalement une formule qui encastre l'idée d'un clivage qui fait écho à un clivage fondateur, hein, de notre pays, qui est le clivage centre-périphérie. Nous, ce qui nous semblait quand même, c'est qu'on était passé ces dernières années ou ces dernières décennies sur une réactualisation de ce clivage, mais qui prenait une autre forme. C'était plus l'opposition simplement à Paris, mais c'était plutôt l'opposition entre les métropoles et le reste du territoire. Et une opposition qui a été d'ailleurs réactivée très largement par des héritiers, hein, du pouvoir vichyste.
Des essayistes divers.
Oui.
Des essayistes. À succès.
Tout à fait. Et puis des journalistes, et puis surtout des partis politiques. Nous, ce qui nous semblait important, et c'est une des motivations de ce numéro, c'est face à ces discours sur, on va le dire, hein, la France périphérique et à l'instrumentalisation politique de l'opposition entre les supposés milliards qu'on déverserait dans les banlieues d'un côté pendant que le reste de la France souffrirait.
Ou dit autrement, les tours et les bourgs, parce que ça peut se conjuguer de multiples manières.
De multiples façons. Et alors que tous les travaux de géographie, de sociologie, toutes les sciences sociales nous montrent l'extrême diversité des territoires, hein, l'extrême diversité sociale et pas que sociale des métropoles, mais aussi des territoires ruraux, mais aussi des petites villes, des villes moyennes. Et là, il y a une stratégie politique extrêmement efficace qui s'est déployée depuis une dizaine ou une vingtaine d'années de mise en opposition, de mise en concurrence des territoires qui est extrêmement délétère d'un point de vue politique, du point de vue des politiques publiques. Et on a souhaité, nous, proposer une autre notion qu'on a importée des débats de la géographie anglophone, hein, qui est la notion de « left behind places », et pour désigner tout un ensemble d'espaces extrêmement contrastés qui ont comme point commun de subir de plein fouet le retrait conjoint du capital et de l'État. Pour aller vite. Quand on pose les questions dans ces termes-là, on se rend compte qu'on a à la fois des quartiers défavorisés des grandes métropoles, des zones périurbaines paupérisées, des centres-villes de villes petites et moyennes en déclin.
Et des campagnes profondes.
Des espaces ruraux en déprise. Et surtout, quand on regarde ces différents types de territoires, on se rend compte qu'ils peuvent être affectés par un certain nombre de processus sociaux et politiques commun. Et que finalement, on voulait essayer de dépasser cette opposition et essayer plutôt d'interroger ce qui fait commun entre ces différents territoires.
Alors vous essayez de l'appréhender, ce mouvement, ces évolutions, à la fois en prenant en compte les dimensions économiques, les dimensions de politique publique, mais aussi les dimensions de cadrage médiatique, le rôle de la compétition politique dans la mise à jour de ces catégories, et évidemment la façon dont tout ça s'insère dans des dynamiques vastes à l'échelle de la mondialisation économique en particulier. Vous essayez de tenir tous ces bouts, c'est ce qui a donné la structure d'ailleurs à ce numéro de la revue Mouvement, Renaud Epstein.
Alors tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a une tendance un peu spontanée à se dire que ces territoires en souffrance, bah finalement c'est l'effet de transformation économique, du capitalisme globalisé, etc. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que il y a aussi une production publique, politique, de ce délaissement qui renvoie à un certain nombre de choix, qui renvoie, mais déjà en amont, au succès d'une idéologie, pour aller vite, au triomphe du néolibéralisme. Et il faut bien voir que on sort d'un demi-siècle, 30-40 années d'après-guerre, pendant lequel les politiques en France, comme dans l'ensemble l'ensemble des pays d'Europe, de l'Ouest en tout cas, étaient guidés par ce qu'on pourrait appeler du keynésianisme spatial. C'est-à-dire une idée que l'État, par des politiques de prélèvement et de redistribution, avait pour objectif de réduire les inégalités territoriales, les inégalités spatiales. Et c'était, à bien des égards, le cœur des politiques qu'on appelait des politiques d'aménagement du territoire. Et il faut bien le dire, ça a plutôt bien fonctionné. En tout cas, pendant les années 60-70. On a un véritable retournement au tournant du siècle, au début des années 2000, avec le basculement dans des politiques territoriales proprement néolibérales, ou si on, moi, quand je résume à mes étudiants, je dis politique territoriale néolibérale, c'est arroser là où c'est déjà mouillé. L'idée que l'État va aller en rajouter, concentrer ses moyens dans les territoires qui sont déjà les territoires privilégiés par le capital, par les ménages les plus dotés, par, etc. Et donc, on va aller renforcer ces inégalités. Et ça, c'est un vrai, des vrais choix politiques.
C'est plus un problème, c'est assumé.
Non ? Ah bah, c'est l'idée du ruissellement. C'est, on va mettre plus de carburant là où ça roule déjà, et puis comme ça, ensuite, on va pouvoir éventuellement prélever, redistribuer. Sauf que ça marche pas vraiment comme ça.
Alors, une autre dimension de ce numéro de mouvement politique des territoires délaissés, c'est sa dimension internationale. Non seulement pour penser la façon dont le territoire français s'encastre dans une géographie plus large, mais aussi pour aller voir ce qui s'y passe dans d'autres pays et pas seulement en Europe.
Alors, tout à fait. On a trois papiers qui portent sur d'autres cas nationaux. Alors, on a un papier sur l'Italie qui est extrêmement intéressant parce que l'Italie est le pays dans lequel la question de la division Nord-Sud de mes journaux a été centrale dans la vie politique pendant 50 ans et elle est en train de disparaître totalement. Et donc, on a un papier de Gilles Pinson, Deborah Gilberti qui nous interroge ce retournement. Mais on a aussi deux papiers, je dirais, plus exotiques au regard d'un numéro qui est quand même plutôt centré pour l'Europe, mais je trouve qu'ils sont très éclairants. Un papier de Comsalver sur Lagos et un papier de Judith Audin sur une ville moyenne chinoise, quoi, une ville moyenne chinoise d'un million d'habitants, donc Datong, et où on voit à la fois un certain nombre de dynamiques communes, mais des éclairages qui font écho aussi au cas français. Je pense que le cas de Datong est passionnant, où on voit comment, du jour au lendemain, cette ville qui était une grande ville du charbon et qui était engagée dans des projets pharaoniques de rénovation urbaine, on démolit tout le centre-ville, du jour au lendemain, on arrête tout. Et on a comme ça des centaines, des milliers d'habitants qui vivent dans des ruines. Et elle nous décrit de façon extrêmement fine ce que ça veut dire aussi de vivre dans des ruines. Et ce papier d'ailleurs fait écho à un autre papier de Charles Réveillère sur une cité marseillaise. Et je trouve que la mise en regard de ces deux papiers nous renseigne, nous rappelle aussi que il y a des mécanismes dans des cas qui finalement se rapprochent et que on peut aussi mieux comprendre le cas français parfois en allant regarder très loin dans le sud global.
Merci Renaud Epstein, un numéro de la revue Mouvement, numéro 118, que vous avez co-dirigé avec Vincent Béal, Thomas Kirschbaum et Max Rousseau. Voilà, vous trouvez toutes les références bibliographiques, celle-là, mais aussi celle des deux livres dont nous avons parlé dans l'émission, sur la page de l'émission, une page où vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Séam Boutata. À la technique aujourd'hui, François Saint-Jour. À la réalisation, Jean-Christophe Francis.